enregistrement ce matin et l'a dégradée avec un A+. Si elle passait en catégorie inférieure, ce serait à cause de la crise politique persistante depuis la dissolution de l'Assemblée.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que nous pourrons arroser et voir grandir. Bonjour Sophie.
Bonjour Karine. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires afin de cultiver notre jardin intérieur. Si vous souhaitez réagir sur notre émission, vous pouvez le faire sur le site de Radio G, www.radio-g.fr.
Alors aujourd'hui nous recevons Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Florent qui est notre invité aussi.
Bonjour.
Pour pouvoir poser des questions. Et nous allons parler d'un sujet qui, au premier abord, peut faire peur, mais qui ne fait pas mourir, c'est-à-dire la mort. Alors Stéphanie, dis-nous comment tu en es arrivée là, enfin où tu en es aujourd'hui. Raconte-nous ton parcours.
Voilà, mon parcours. Moi, je suis une ancienne architecte d'intérieur maître d'œuvre. J'ai eu ma société pendant 20 ans, j'ai fait pas mal de projets. En 2023, j'ai arrêté tout ça après un burn-out. Voilà, j'en pouvais plus, j'avais fait le tour de la question. Et des rapports humains compliqués. Je me suis dirigée vers une formation de Tanadoula. Alors c'est un métier qui est très peu connu. C'est l'accompagnement des gens en fin de vie, l'accompagnement des gens en deuil. Et comme c'est très peu connu, c'est très difficile d'en vivre. Donc je me suis tournée ensuite vers le métier de conseillère funéraire, maître de cérémonie. Sachant que 28 ans auparavant, quand j'ai passé mon diplôme d'architecte d'intérieur, moi j'avais fait un complexe de crématorium et d'urne cinéraire, donc c'était déjà là.
un premier signe.
Et en parallèle, je me suis formée à Jalmalve et je débute là en juin l'accompagnement des gens en fin de vie en tant que bénévole. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, tu es conseillère funéraire.
Tout à fait, maître de cérémonie, gestionnaire de centre funéraire, puisque je gère également une marbrerie et un centre funéraire où on accueille les défunts le temps de se recueillir avant les obsèques.
La mort, c'est vrai que c'est quelque chose
qui fait peur au premier abord.
Ouais, il y a de la tristesse, il y a de la voilà. Comment tu fais justement? C'est naturel pour toi tout de suite? Ça a été?
Ouais, ça a été. J'étais surprise d'ailleurs. L'accompagnement des familles qu'on reçoit s'est fait très très naturellement. J'ai cette capacité à avoir énormément d'empathie pour les autres, mais de pas prendre leur deuil. J'arrive à pas mal les aider quand même. L'aide, elle se fait et par le centre en lui-même qui est très bien fait et l'environnement qui est extrêmement adapté. Et puis la posture, savoir parler aux gens. Pour ceux qui ont une ouverture d'esprit un peu plus grande et qui sont capables d'entendre certaines choses, je vais pouvoir les accompagner d'une autre manière. Je rentre dans le vif du sujet.
Vas-y, lâche-toi. Oui,
parce que je suis également médium. Donc, je parle aux morts, je les vois, je les sens. Je les sens avec mon corps, je sens les odeurs. J'entends, je vois. Donc, c'est quand même bien pratique quand des familles sont ouvertes à ça et que j'ai des petits messages à leur passer et même d'écrire ce qui se passe quand un défunt par exemple en serre sa femme dans ses bras et que je le vois et qu'elle ne le voit pas et ne le sent pas mais que moi je vois tout. Donc c'est très enveloppant et c'est très intéressant pour les gens parce que il y a une petite note d'espoir. Ils comprennent que le défunt qu'ils ont devant eux, c'est un corps, c'est une coquille vide en fait. Mais le défunt, il est là, il est à côté. Généralement, de mon expérience, les défunts s'en vont après leurs obsèques. Mais tant que le corps n'est pas traité, je dirais, tant que le véhicule n'a pas été là où il doit être et que le défunt n'est pas assuré que son corps a été traité avec dignité, il s'en ira pas. Donc voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas ouverts, je le sens. Après, c'est sentir les choses. Hein. Il y a des gens, je me dis, c'est même pas la peine que je leur dise. On ne va rien dire. Et là, je les accompagne d'une manière plus classique. Voilà, avec l'empathie, avec la parole, échanger. Parfois, c'est juste des petites attentions. On a un buffet libre-service. Je vais aller leur chercher un café. Je vais m'asseoir, discuter un petit peu. Ça aide bien, ouais. Ça aide bien.
Et médium, ça, tu le savais avant ou c'est vraiment...
Non, je le savais avant.
Ah, tu le savais.
C'est pas pour rien que je suis arrivée. Oui. Je savais que j'avais un rôle à jouer dans ce domaine-là. Donc pour l'instant, voilà, je fais ça, pour l'instant. On verra après ce que la vie m'amène, mais là j'ai ma place. Mmh. J'ai ma place, et j'ai ma place aussi en tant qu'officiante, oh là, il y a le fil qui... En tant qu'officiante, puisque je suis aussi maître de cérémonie...
Ça consiste en quoi, maître de cérémonie?
Alors, maître de cérémonie, c'est la personne qui va officier aux obsèques. Quand on a des obsèques religieuses, le maître de cérémonie, lui, va organiser le ballet, je vais dire, avec les porteurs, comment se mettre au diapason de l'équipe du diocèse. Quand il y a une inhumation, moi j'aime écrire, donc je fais toujours un hommage, j'écris toujours un hommage personnalisé pour le défunt et pour sa famille. Et puis quand on a une crémation, parce qu'il faut savoir qu'en France maintenant on est pratiquement à 50% de crémation, là je vais officier en tant que maître de cérémonie, c'est moi qui vais animer la cérémonie puisque c'est une cérémonie laïque. Donc je prépare aussi la musique, les photos et puis le texte qui est très très important pour moi. Des fois on fait des mises en scène parce que j'en ai eu un, le défunt a adoré les instruments de musique, donc il y en avait partout. Voilà, on avait fait une mise en scène avec les fleurs, etc. Voilà, j'ai à cœur que ce dernier hommage soit vraiment un vrai hommage. En France, parce qu'il y a d'autres pays, c'est pas comme ça, hein, mais en France... on va magnifier la naissance, le mariage, etc. Et puis, la mort, c'est le laisser pour compte, ça fait peur, donc on s'en débarrasse. Or, au vu de ce que je vis, la mort est un passage, ça n'est qu'un passage, comme la naissance, beaucoup moins douloureux que la naissance, d'ailleurs. Donc, c'est important de le traiter correctement et de traiter correctement l'âme du défunt qui est là et qui voit tout. Hein. Donc voilà, donc je fais mes textes, je me suis rendu compte que je les canalisais, en fait. Les défunts prennent part au texte que j'écris et ça fait des très belles cérémonies et ça fait mouche à chaque fois. La famille vient et me dit mais merci. Les mots ont un pouvoir aussi, hein, toutes les vibrations, les mots aussi, et c'est très très important. C'est très important pour eux, pour le défunt et pour moi.
Je trouve que les obsèques, moi, c'est la dernière fête, en fait.
C'est ça. Ça devrait être une fête, parce que après, je sais pas, moi, 30, 60, 80, 100 ans de dur labeur dans ce monde un peu spécial, on rentre à la maison et ça va être la fête. Donc oui, c'est une fête, en fait. Mais il y a beaucoup de pays qui l'ont compris. En France, on est dans un pays historiquement judéo-chrétien. C'est encore dans l'inconscient collectif. Même si, dans la religion catholique, on retourne vers Dieu, c'est la fête, mais il y a le purgatoire, l'enfer, le paradis. Enfin, bon, moi, j'adhère pas à ça. C'est très personnel. Je ne juge pas les gens qui y trouvent leur compte. C'est très bien pour eux si ça peut les aider. Mais en fait, c'est une fête, ouais.
Pour moi, oui.
Et puis c'est juste un au revoir.
C'est ça. On se retrouvera là-haut.
C'est pas pour rien qu'on y passe tous. Hein.
Oui, c'est la seule justice en fait sur Terre, c'est qu'on meurt tous.
Là, on est tous égaux.
On meurt tous plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ça dépend de... Voilà. Il n'y a pas de règle.
C'est ça.
Il n'y a pas de règle.
Non, ça dépend du choix des personnes qui sont venues là. C'est un choix.
C'est ça, on fait un choix.
Un choix qu'on a oublié, mais c'est un choix.
Moi, j'y crois beaucoup à ça. À l'avant, à l'après. Florent, est-ce que ça te parle?
Ouais, plutôt. C'est hyper intéressant. Moi, j'avoue que j'ai de base plutôt un côté cartésien, je pense, par mon père, même si j'ai toujours eu une certaine ouverture d'esprit, ou en tout cas j'essaye, sans être trop prétentieux. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que des fois on a beau se dire c'est pas possible, qu'est-ce qu'il en est, et finalement il y a toujours des périodes, je pense, dans notre vie où on se pose des questions, on ressent des choses et on n'arrive pas à l'expliquer. On se dit qu'est-ce que c'est. Et même face à la mort, c'est vrai que on en parle souvent comme une problématique. Et j'ai trouvé ça assez beau ce que tu as dit sur le fait que bah, finalement la mort comme la naissance, c'est un passage. Et alors, et finalement, la mort, c'est, tu as dit, moins douloureux, moins violent.
C'est moins douloureux.
Moins douloureux, ouais. Alors que souvent, la naissance, on voit ça comme quelque chose de très beau, ouais. On le glorifie, alors que la réalité, ça peut être très compliqué et douloureux, tant pour l'enfant que pour les personnes qui le vivent.
Mmh. J'ai une question. Est-ce que quand on travaille dans le domaine de la mort, parce que alors moi, je refuse de croire que la vie, enfin, je crois à plein de choses aussi, que la vie, on est juste pour s'enquiquiner, enfin, excusez-moi, à l'école, pour bosser pendant 40 ans, voire maintenant 45 ans, payer des factures. Enfin, moi, je refuse de voir. Enfin, pour moi, c'est pas ça, la vie. Ça n'a pas de sens.
C'est juste un travail alimentaire.
Oui, c'est ça. Parce que beaucoup de gens font un travail alimentaire, quand même. Faut pas se mentir. Donc, est-ce que quand on travaille dans le domaine de la mort, on relativise après ces choses-là, ça nous, ça donne plus de sens à la vie, ça.
Oui, je pense, même les personnes qui n'ont pas développé leur capacité médiumnique, parce que tout le monde est médium, absolument tous les humains sur Terre, on a tous les mêmes sens qu'on travaille, qu'on peut développer. Moi, je reviens de une semaine à Arthur Findlay College, qui est une école de médium au nord de Londres, où j'ai pu apprendre encore, affiner les choses. J'y retourne l'année prochaine, d'ailleurs, tellement j'ai adoré. On est tous médiums. Il faut juste le travailler, il faut juste s'écouter. Il faut, alors pour ça, le top du top, c'est faire des méditations, parce que là, on rentre vraiment dans soi et on se rend compte qu'on est autre chose que ce qu'on pense être. Et on est tous à la même enseigne. Et c'est quand même très chouette. Et avoir conscience que la mort n'existe pas, parce qu'elle n'existe pas, la mort du corps, oui, mais la mort en elle-même, ça n'existe pas. D'ailleurs, la mort, si on prend le langage des oiseaux, c'est l'âme hors, H-O-R-S. C'est l'âme qui sort du corps, c'est ça la mort. On a tout dans la langue, c'est génial. On a une vision ensuite de la vie qui est différente, ça c'est clair. Moi, j'ai compris que la vie, on est là, on vient ici pour apprendre, pour évoluer. Alors, comme je dis toujours, hein, on n'apprend pas dans la soie et les paillettes, on apprend dans l'épreuve, mais derrière l'épreuve, il y a toujours un cadeau. Regardez vos épreuves tous, tournez-vous sur votre passé, analysez les épreuves que vous avez traversées et regardez ce qu'elles vous ont apporté. Je dirais que dans les trois quarts des cas, si vous avez compris la leçon et vous la comprenez inconsciemment, ça vous a apporté quelque chose qui vous a fait évoluer, qui vous a fait avancer. Donc on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Et quand on comprend ça, on vit pas les épreuves de la même façon. Alors je vous dis pas qu'on souffre pas, je vous dis pas qu'on galère pas. Moi je suis comme tout le monde, hein, je suis en plein dedans en plus. Y a des moments de vie qui sont extrêmement difficiles. Mais le comprendre, ça permet d'avancer plus sereinement, en fait. Et surtout, j'insiste, ne pas avancer dans la peur. La pire entrave pour évoluer, c'est la peur. Et on le voit bien, on est quand même dans une société où on joue beaucoup là-dessus. La mort, d'ailleurs, est traitée dans nos sociétés de cette façon-là, parce que ça permet de faire peur aux gens et puis de les tenir d'une certaine manière. Moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, ne cédez pas à vos peurs. Ne cédez pas à vos peurs, parce que les trois quarts du temps, les gens vont vivre leur vie à travers leurs peurs. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et s'il se passait ci? Et s'il se passait ça? Ils vivent jamais le moment présent.
C'est vrai.
Ils vivent toujours dans un futur hypothétique. Et si on regarde bien, les trois quarts des peurs qu'on a, elles n'arrivent jamais. Jamais, jamais. Donc, c'est un petit peu dommage de passer à côté de sa vie, parce qu'il y a des belles choses dans tout, mais dans tout, même dans les pires malheurs, il y a des choses magnifiques qui se passent. Donc, je sais que c'est pas facile, mais essayez de s'accrocher à ces choses magnifiques, et c'est ça, en fait, qui fait qu'on avance. Hein. Et c'est ça qui fait que, quand on retournera à la maison, on dira, waouh, j'ai coché cette case-là, bon, ça, faut encore que je bosse. Mais voilà, on est là pour évoluer, vraiment.
Moi, j'ai retenu une phrase de toi, il y a quelque temps, parce qu'on se connaît à l'extérieur, qui disait « Les épreuves, ce sont des cadeaux mal emballés. »
Ouais.
C'est vrai, c'est ça. J'aime bien.
Je leur dis souvent là-haut, « Je vais vous apprendre à faire des papiers cadeaux, vous êtes vraiment là, c'est pas cool. »
Des fois, ils sont vraiment mal emballés.
Non, ils savent pas faire les papiers cadeaux.
Ils n'ont pas le temps.
Oui, c'est ça. Pas pourtant.
Je pense que ça ne les intéresse pas.
C'est ça. J'ai souvent entendu les gens souffrent et ils souffrent de souffrir.
Oui, c'est ça.
C'est la double peine.
C'est
en fait.
Ça.
C'est oui, c'est
ça.
Vrai ça, maintenant que tu le dis. On souffre de souffrir.
C'est ça.
Les gens sont à côté de leur vie. Mais en même temps, je comprends. Je vois les gens autour de moi, ils sont rivés à leur portable, ils sont sur BFM, ils sont sur, ils ont la télé allumée, ils ont la radio, le machin, le truc, internet, les journaux. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans que j'ai plus de télé, et ça fait 15 ans que je suis au courant de rien, de ce qui se passe dans le monde. Alors, il y a plein de bonnes âmes qui sont là pour me dire, oh là là, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Oui, super. J'ai aucun pouvoir, je peux rien y faire, donc gardez votre merde, ça m'intéresse pas. Et en fait, ça, ça aussi, c'est reprendre son pouvoir, en fait. Faire en sorte de ne pas se laisser envahir par tout ce qui se passe dans le monde et sur lequel on n'a aucune prise et qui est organisé la plupart du temps et qui est fait pour nous faire peur. C'est vraiment fait pour ça. Donc, bah, y a un moment, bah non, quoi. Non. C'est simple, en fait, de dire non. Faut faire. Bah, on arrête la télé, on coupe.
Puis il y a des générations aussi.
Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr.
La génération de mes parents, ils regardent.
Ah bah moi aussi.
Moi, quand j'ai arrêté de regarder les informations, maman, elle me dit quand même, presque j'étais un culte.
Oui, c'est ça.
Je regardais plus les infos.
J'ai entendu ça aussi.
Mais les infos, elles arrivent toujours à nous après.
Oui, ce qu'on doit savoir.
Ce qu'on doit savoir, on le saura de toute façon. La vie est bien faite. Moi, j'ai toujours la vie est bien faite.
Mais c'est vrai que tu cours, c'est fais attention à pas te faire agresser. Tu fais un truc...
Pas faire un jogging dans les bois surtout.
Ah bah non, surtout pas.
Bah non. C'est vrai que maintenant on n'ose plus rien faire.
Bah non.
Si on écoute.
Si tu nages,
les médias,
à noyer.
Voilà. Si tu manges, tu peux t'étouffer aussi.
Ne respire pas, mais l'air est pollué.
Ouais, c'est ça.
Ça existe.
Oui, on peut s'étouffer, on peut, voilà.
Il faut pas dormir, il y en a qui meurent dans leur sommeil.
C'est vrai,
faut arrêter de dormir, c'est pas bon.
On ne veut plus rien.
Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, on meurt toutes les nuits. Toutes les nuits, on quitte notre corps.
Ah ben,
et oui, et ça, c'est un truc qui est énorme, que personne ne sait. Enfin, il y a des gens qui le savent. Mais toutes les nuits, on quitte notre corps. Notre âme quitte notre corps.
Et on va où ?
Ah ben, on va avec notre équipe et on débriefe de la journée.
D'accord.
Et voilà.
Est-ce que c'est un peu ce que certains vont décrire comme le travail de l'inconscient ? Par le biais des rêves ou...
Alors, il y a ça. Alors, il y a deux types de rêves. Il y a les rêves qui sont générés par l'inconscient et avec l'outil du cerveau qui est un outil. C'est un ordinateur, le cerveau. Hein. C'est absolument pas le siège de notre âme. Et puis, il va y avoir les rêves que moi j'appelle des songes où on va avoir des visites. Très, très souvent, avant les décès, après les décès, comment les familles vont avoir des visites du défunt. Donc, se disent qu'elles ont rêvé.
Même avant le décès ?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Les gens savent quand ils vont mourir. Ils le savent, en fait. Moi, ma mère, 15 jours avant de décéder, elle est morte d'un arrêt cardiaque. Hein, elle a dit à ma sœur, je vais bientôt mourir. Hein. Ma sœur lui a dit, ben non. Et Karine, ma sœur, qui s'appelle Karine aussi, m'a dit, mais en fait, quand elle m'a dit, je le savais. Alors moi, je suis issue d'une famille de médiums, hein, on est une dizaine, je suis pas toute seule. Et en fait, 15 jours après, effectivement, elle est décédée. Donc les gens le pressentent, et moi, je vois bien dans le funé, les familles qui me parlent, je suis toujours sciée, quoi. J'ai toujours des gens qui me disent, mais c'est dingue parce qu'il nous avait dit qu'il savait qu'il allait mourir. Et c'est très, très, très souvent. Mmh. Très souvent, les gens le savent. Oui. Hein. Ils sont préparés en fait, on les lâche pas comme ça. Hein. Autant au sol, il y a pas grand monde pour nous aider. Autant je dis là-haut, mais je sais pas où c'est. Sur un autre plan, c'est plus une histoire de plan. On est tous accompagnés tout au long de notre vie et même après. Et ça turbine, ça travaille. Hein. On nous laisse pas tout seul. Non.
Et la question que justement on parlait du sommeil, ceux qui ont du mal à dormir justement. Ça a à voir avec, justement, si tu dis que notre âme sort du corps.
J'en ai aucune idée. Bah, je pense que les gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre, en fait. Ils ont beaucoup de mal dans leur vie et ils n'arrivent pas à lâcher prise, en fait, avec toutes leurs problématiques. Là, on est vraiment dans le cadre de l'inconscient, du psychologique, parce que c'est très présent, hein, bien évidemment. On est quand même associé à un être humain, c'est quoi ? C'est un corps avec un être primitif à la base. Et puis une âme qui va au départ essayer de se mélanger à cet esprit-là pour en faire l'être humain final. Donc je dirais que c'est un peu comme s'il y avait deux êtres en un. Moi, je sais que ma problématique en tant que médium, quand je canalise, c'est de laisser mon mental de côté, donc mon esprit, qui lui veut absolument venir et mettre son grain de sel. Très, très énervant, donc c'est de la discipline. Il faut séparer les deux, lui dire « tu restes à ta place, t'observes, t'apprends, mais t'interviens pas ». Mais c'est très difficile, parce que lui, il fait partie de l'être aussi, et puis il y a des choses qui lui plaisent pas, il a besoin de broder, il a besoin de raconter, il a des besoins, mais qui ne sont pas pertinents au moment de la canalisation. Donc ça, c'est vraiment très, très difficile. Je vous donne un exemple. Je canalise un défunt pour en exercice avec donc une consultante à Arthur Findlay. Et puis, je vois une petite mamie qui arrive très, très, très pimpante, très pomponnée. Et le consultant ne devait répondre que par oui, non ou peut-être. Et puis, je décris la mamie. Elle me dit oui, ok. Bon, après, des mamies pimpantes, cheveux gris, et trois quarts des gens, non. Donc ça donne pas grand-chose. Et puis d'un coup apparaît une tortue des Galapagos, les tortues géantes. Alors je la voyais de face, dressée sur ses pattes avant, et puis le cou tendu vers le ciel. Donc je lui décris ce que je vois, elle éclate de rire et elle me dit oui. Donc là, mon ego et mon mental sont rentrés en jeu. D'un coup je vois un jardin autour. Ah, je lui dis ta mamie, elle a une tortue dans un jardin, etc. Et là elle me dit non. Je disais pourquoi elle me dit non? On continue le truc, à la fin on fait un débrief, et puis je lui dis alors, et elle me dit, ma grand-mère n'a jamais eu de jardin, n'a jamais eu de tortue, elle a toujours habité en appartement. Ok, pourtant tu m'as dit oui pour la tortue. Et elle me dit oui parce que ma grand-mère ne supportait pas de vieillir, et elle nous montrait toujours son cou, en disant, regardez, j'ai le cou fripé comme une tortue des Galapagos.
Excellent. Mmh.
Donc vous voyez, c'est ça le truc. Mon mental, lui, s'est dit, bon, il y a une tortue, elle est forcément dans un jardin. Donc la mamie a un jardin. non, en fait, c'était le moyen pour la mamie de se faire reconnaître. Là, c'était imparable. C'était imparable pour qu'elle la reconnaisse. C'était bien ça. Bon, il y a eu plein d'autres choses derrière pour qu'elle la reconnaisse. Il n'y avait pas de souci, elle était bien là, cette petite mamie. Mais voilà la bataille entre mon esprit spirituel, mon âme, et puis mon mental, qui lui, faut combler les trous en fait, c'est pas suffisant la tortue, c'est quoi cette tortue? Je lui dis, mais on s'en fout ce que c'est, elle sait, mais oui, on n'a pas besoin de savoir. Donc c'est, voilà, et quand on va être en phase de sommeil et qu'on va essayer de se laisser aller, soit vous arrivez à vous laisser aller, et puis quand on rentre en phase de sommeil, on est en état modifié de conscience, on change d'onde. Et c'est là qu'on peut glisser dans le sommeil. Et en fait, quand on canalise, c'est exactement la même chose. Quand je me mets en état de condition de canalisation, c'est comme, c'est les mêmes phases que pour le sommeil, en fait. On est en état modifié de conscience. Et puis, les gens dont le mental va être surchargé de peur, de stress, etc., ça va tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et là, on peut pas faire ce travail qui se fait naturellement, mais de changer d'état de conscience, et on peut plus glisser dans le sommeil.
Mmh.
Et c'est uniquement généralement du stress.
Le mental prend de la place quand même.
Oui, mais il y a des gens qui se rendent pas compte, qui sont stressés, ou ils font pas stresser, qui dorment pas.
Non, ils s'en rendent pas compte. Mmh. Ils s'en rendent pas compte. Moi, ça m'arrive très souvent aussi, ça. Tourner en boucle une problématique. Et je me dis, avant de me coucher, je sais quelle est la problématique qui tourne dans ma tête. Et je le dis à voix haute. Non. Non, on verra ça demain. Ce soir, on dort. Et puis alors, moi, je vais me mettre dans des conditions. Je vais toujours dans un même paysage où je me sens bien. Et puis, à un moment, si j'ai un conseil à donner aux gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est respirer. Faites un petit exercice de cohérence cardiaque, on en trouve sur YouTube, qui sont très bien, ça dure 5 minutes. Donc c'est, en fait, tout passe par la respiration. La canalisation aussi, c'est par la respiration. Et en fait, faut se concentrer sur sa respiration, et après c'est bon. En fait, ça calme tout. Ça calme le mental, ça calme le cœur, ça calme le corps. Et là, le switch se fait, et on peut partir tranquillement. Ça, c'est un très très bon exercice, c'est très très simple. Et c'est ce petit exercice de cohérence cardiaque. Mais j'ai calmé combien de gens au funérarium qui pétaient des câbles parce que c'était trop dur, parce que donc je les asseyais. On va faire un petit exercice. Vous êtes d'accord? Avec une petite voix douce, on s'assoit. respirez bien, concentrez-vous sur la petite bulle et c'est magique. C'est magique.
Mais moi, c'est vrai de dormir. Moi, je me mets dans un lit, je dors.
Oh la chance.
Parce que moi, je pars du principe qu'il ne peut rien se passer la nuit. Donc je me dis, bah, on verra ça demain.
Bah, c'est vrai qu'à 3h du matin, quand on se réveille, qu'on a, on pense au boulot.
Ah ouais.
Et on ne peut rien faire. Enfin, au boulot ou à autre chose.
Bah ouais, justement.
Mais on
ne
peut pas résoudre
dort.
De problème à 3h du matin.
Non.
Ah mais bah le mental, lui, part dans des
ah
trucs.
Ouais ah moi, je dors.
Non, mais c'est bien. Ça, c'est bien.
Je ne prends pas la tête. J'adore aller au lit.
Oui.
Parce que je sais que ma vie s'arrête. Terminé.
Mais tu vois, on
pars demain.
Tu pars dans l'au-delà.
C'est très juste ce que tu dis. Ta vie s'arrête.
Ouais. Ah, mais je le ressens. Hein. Mm. Je me mets dans le lit.
Ah ouais, c'est génial ça.
Par contre, il faut rien me demander. Hein.
Bon, bah ça ne nous regarde pas, Sophie.
Ah non. Il devait y avoir un frustré à la maison.
Ah non. Ah, j'y étais pas.
Non, excuse-moi, c'est plus le sujet là, je suis hors sujet. Pas une autre émission.
On fait une émission, ça donne. Non, sur le plaisir, c'est bon, mais par contre, sur les tracas, non. Je vais rebondir comme ça.
Bon, je vais changer de sujet, tiens, je vais revenir à l'amour. Ouais. Est-ce qu'avant de s'incarner, on choisit du coup nos épreuves, ce qu'on va vivre, quand on va mourir, de quelle façon
Alors, on va choisir des grandes lignes parce que... Oui. Alors, moi, j'ai pas toutes les réponses. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est ma vision des choses, mes ressentis selon mes expériences. Je connais d'autres médiums qui ont des expériences différentes. Je pense qu'il y a un panel de possibilités. Mais effectivement, on choisit de venir... Alors, déjà, on choisit de venir s'incarner sur ce plan-là, sur la Terre. Il y a d'autres plans d'incarnation.
Ah oui ?
Ah oui, oui. Oui, il y en a d'autres. Ça, je le sais, parce que ça... Enfin, j'ai vécu des trucs, mais ça pourrait être le sujet de notre émission. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ce plan d'incarnation-là, c'est un des plus difficiles. Donc, je peux dire à tous les humains sur Terre, bravo, chapeau, parce que c'est pas facile de venir ici. Mais c'est là où on avance le plus vite, parce que justement, c'est pas facile. On va choisir les grandes lignes, on va choisir absolument toutes les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie, toutes,
ah oui.
Sans exception. Nous quatre, là.
Ah, même là, on s'est choisi avant.
On a choisi, c'est que voilà, je viendrai parler de ça. On va choisir les grandes lignes. Et on choisit tous ensemble parce qu'on a tous des choses à travailler. Donc les parents qu'on va choisir, les frères et sœurs, les amoureux, les enfants qu'on aura, les chiens, les chats, parce que les animaux aussi. On va choisir de travailler ensemble et de vivre des choses qui vont faire travailler les uns et les autres sur des points précis. C'est un sacré scénario. Hein. C'est un sacré boulot.
Parce que si on vit jusqu'à 100 ans, ça en fait des scénarios quand même.
C'est un sacré boulot quand même.
Mais c'est vrai.
Mais comme on a notre
bras... C'est pour ça qu'on a notre bras avant. Ils sont pas courageux.
Et comme on a notre libre arbitre, il y a plein de scénarios possibles. Les grandes lignes, je dirais, il y a des carrefours en fait, des chemins, des carrefours où là on ira normalement. Des fois on se plante hein, et on n'y va pas. Il y a des choses voilà qui se passent, qui sont un peu bizarres, comme le suicide par exemple. Ça c'est pas inscrit, c'est une petite erreur de parcours.
Ah oui.
Hein. C'est pas grave, hein, on recommence, on revient, et on recommence. C'est pas la fin du monde. Mais les grandes lignes sont là en fait. Il y a des carrefours, on doit y être. Mais après les chemins, t'as le chemin A, le chemin B, le chemin C, D, E. Il y a peut-être le A1, A2, A3, B2, B4. Donc il peut y avoir. Il y a des chemins plus ou moins longs. Mais quel que soit le chemin qu'on va prendre, on a à apprendre en fait. On apprendra toujours. Soit on se complique la vie, soit on se la complique pas. Généralement, ça complique.
C'est clair.
Surprenamment.
Mais oui, très, très bizarrement. Bah oui, parce que on a notre libre arbitre et puis on a notre fameux mental qui lui rentre dans l'équation. Donc, et lui qui fait changer des choses aussi. Donc, c'est assez très très complexe. Hein. C'est je vois ça un petit peu comme une carte routière avec tout un réseau est super complexe et. Mais bon, les grandes lignes, oui, la façon dont on va mourir, on l'a choisi, bien sûr.
Oh, pas trop violemment, s'il vous plaît. Enfin, j'espère, j'ai choisi une mort douce.
Toujours, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai très peur de comment je vais mourir.
Ah, c'est ça, oui.
C'est ça qui me fait peur. La mort, non. Mais comment ?
Comment, oui. Bah, moi, j'ai pas trop envie de souffrir, mais bon. Après, si j'ai fait le choix, j'assumerai. Tant que c'est rapide, on verra. On verra.
Oui, on verra.
Bon, pas tout de suite, mais ça...
On fait ce qu'on peut, mais c'est là l'important, je dirais, de prendre soin de sa vie pour mieux prendre soin de sa mort à la finalité.
En fait, je pense qu'il y a aussi une grande leçon, c'est s'aimer. Dans notre société, on dit que si on pense à soi, si on est égoïste. Alors, il faut être égoïste. Il faut pas être égocentrique, mais il faut être égoïste. J'emprunterai une phrase de la religion catholique qui me parle beaucoup. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On peut pas aimer les autres, on peut pas être qui on est si on ne s'occupe pas de soi et si on ne s'aime pas. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est ça, en fait, qu'il faut apprendre aussi.
Ce que les jeunes ont compris.
Que les jeunes ont compris. Voilà, exactement. Exactement.
Ah bah oui.
Ouais. La nouvelle génération, ils sont hyper connectés. Hein,